Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. On va parler de la Cité des Anges, on va parler de Los Angeles, on va encore parler d'une équipe moins bien classée que les Rockets à l'Ouest, on va parler des Lakers de Los Angeles, on va faire un petit point sur le début de saison, le in-season, on va faire tout ça, voilà, on va piocher à tout, on va toucher à tout, piocher à tout ne veut rien dire, on va toucher à tout. Benjamin Moubèche est toujours de retour, il n'a pas changé de bonnet. Il n'a pas changé de tête. C'est plutôt dérangeant. À chaque fois que je le regarde, j'ai un profond malaise qui s'accable de moi. Benjamin Moubèche, comment ça va par ça?
Ben, ça allait bien juste avant ton introduction. J'invite tous les gens en commentaire à appeler à ta démission, s'il vous plaît. Et puis voilà, on part quand même faire un podcast malgré tout, malgré ton comportement désagréable et ta tête affreuse.
Si je démissionne, quelles sont mes indemnités, patron?
Yep. Mais tu te rends compte de ce que tu racontes là? Ça n'a aucun sens sur le plan juridique. Enfin...
allez, Luca Folkowski, comment
on
va?
On grandit quoi, grandit.
Ça va très bien, nickel.
On va parler des Lakers, ça va être sympa. Alors pour vous qui nous regardez ou nous écoutez, sachez que Benjamin est toujours comme ça, toujours odieux,
c'est
toujours
pas du
invivable
tout,
ouais. Avec moi, toujours à me rabaisser.
Non.
Je me sens mal, voilà. Je le dis, c'est un calvaire de tourner avec lui. les Lakers, on va commencer avec toi. Les Lakers ont gagné le premier in-season tournament de l'histoire, Benjamin Moubèche. C'est une grande première dans toute l'histoire de la vie. LeBron James a été élu MVP du tournoi.
Dans toute l'histoire de la vie.
Et donc, on a vu, juste là, on j'ouvre un petit débat qui n'a pas grand-chose à voir avec le basket en soi. C'est plutôt un débat philosophique, comme tu les aimes. On a vu les Lakers en faire des tonnes avec cette victoire en in-season tournament. On l'a vu qu'ils l'ont célébré dans les vestiaires comme un titre. Ils ont mis les masques, ils ont sorti le champ. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Ils ont tous pris 500 000. C'est très bien, il n'y a pas de problème. On est très contents pour eux. Ils ont même mis une bannière dans la salle des Lakers. Et alors, quelle valeur en fait pour ce in-season tournament? Est-ce qu'ils n'en ont pas fait trop? Parce que mettre une bannière dans la salle dans la salle des Timberwolves, le plafond est vide, à la limite, pourquoi pas? Là, on parle d'une des deux plus grandes franchises de tous les temps. Et tu fous le in-season tournament au plafond. Personnellement, j'ai trouvé ça un peu trop. J'aimerais bien avoir ton avis.
Bah, moi, je pense que tu es un peu dans la gratuité quand même, parce que, mine de rien, si la bannière, elle peut aller en haut de la salle de franchise, elle peut aller en haut de la salle de n'importe quelle franchise. Pour moi, le titre a une valeur intrinsèque, en fait. Et c'est vrai que, mine de rien, les Lakers ont pas tort quand ils disent que c'est les premiers champions et qu'ils resteront dans l'histoire comme les premiers champions. Je me déconcentre pas, je continue. C'est vrai que ça reste un moment historique. Alors maintenant, quel poids ça a dans l'histoire? Je pense que c'est relatif. Il y a des équipes qui accrochent leur bannière de champion de conférence. Il y a des équipes qui accrochent leur bannière de champion de division. Décidément. Les Lakers, ils accrochent une bannière de champion du in-season tournament. Pourquoi pas? Soyons fous. En plus, ils ont annoncé qu'ils en remettraient pas d'autres, que ce serait excellent pour la première. Ensuite, ils marqueront juste les dates en dessous s'ils regagnent. On voit.
Non, mais attendez.
Oula, je bégaye. Je t'en prie, vas-y.
C'est très très rare. Attendez, que je tempère un peu. Je ne dis pas que ce titre de in-season tournament n'a aucune valeur, évidemment.
C'est trop longtemps quand tu parles.
Ça reste un titre. Non, mais je dis juste que j'ai trouvé ça surprenant qu'une franchise historique, on fait difficilement plus historique que les Lakers comme franchise. Enfin, sans déconner. À part les Celtics, les Bulls. Allez, à la limite. On fait difficilement mieux en termes de franchise dans le basket. C'est le symbole du basketball, en vrai, les Lakers.
Mais c'est pour ça qu'au début, ils parlaient de ne pas mettre de bannière. Et c'est vrai que je comprenais aussi ce truc-là, mais je comprends aussi qu'ils veuillent accrocher cette bannière-là. Et je pense qu'autour de la célébration, autour d'en faire des caisses, il y a un enjeu de communication. Pour les Lakers, ça a été une grande publicité. C'était aussi un moment de... Bah, je pense qu'ils ont vendu des maillots, tout simplement.
Oui, ils ont vendu des maillots. Bon, après, écoutez, s'il faut qu'on apprenne à Ginny Buss à faire son travail, il n'y a aucun problème qu'elle nous appelle tout de suite. Luca, ton avis sur ce in-season tournament?
Le titre en soi, je m'en fous pour le coup. C'est juste, ça fait un titre, c'est cool. Mais après, juste, c'est un titre. Ça n'a pas vraiment d'importance dans la carrière des joueurs. On va pas retenir à la fin, tel joueur a remporté tellement de in-season tournament. Enfin, c'est là, ça fait juste un titre que LeBron a remporté que Jordan n'a pas. Et ça fait le fait qu'il soit reparti plus riche de Las Vegas que Jordan, là où Jordan ne s'était jamais arrivé. C'est
quoi ce podcast encore?
Attends, des mecs se sont enrichis à Vegas, gros. C'est jamais arrivé à Jordan, ça.
Non, mais après, non, pour le coup, ce qui a été intéressant de ce in-season tournament, c'est plus de voir le côté des Lakers dans la compétition, qu'est-ce que ça donne. On a vu des Lakers jouer des matchs en jeu, on a vu notamment le fait qu'ils ont mis beaucoup la pression au cercle, etc. Ça a également mis en avant certains défauts qu'il y a dans leur effectif, qu'il va falloir corriger. Donc du coup, c'est moi, c'est ce côté-là qui m'intéresse, mais le titre à proprement parler, ok, c'est cool, mais bon, je pense que on dira à la fin de la saison, ils ont remporté l'NCAA Tournament, et puis voilà quoi, on va plus vite passer à autre chose.
T'as dit quelque chose de très intéressant. Ça nous a permis de voir si l'effectif était un peu taillé pour le titre, ce que valait vraiment l'effectif. Parce qu'on peut reprocher, on reproche depuis de nombreuses années, Benjamin, je vais aller vers toi, à la saison régulière, à certaines grosses équipes, de lâcher des matchs, tu vois, de pas les jouer à 100% pour s'économiser, ce qui est parfaitement compréhensible, vu au regard de la longueur de la saison. Là, Anthony Davis a déclaré qu'il avait joué cette finale de In-Season Tournament comme un Game 7, parce qu'il voulait que les petits, du bout du banc, ou les two-way contracts prennent les 500 000, qu'il avait joué ça comme un Game 7. Du coup, ça nous a un peu donné des indications sur ce qu'il fallait ajuster dans cet effectif des Lakers et si cet effectif était suffisamment compétitif pour aller chercher le vrai titre en juin prochain. Qu'est-ce que tu en as pensé justement de cet effectif des Lakers? Qu'est-ce qui lui manque? Est-ce qu'il est taillé pour le titre?
Ce qui lui manque d'abord, c'est 3 points. Je pense que ça, personne ne peut en douter. Franchement, c'est une équipe, effectivement, elle agresse bien le cercle. Il y a du potentiel. Défensivement, elle est très intéressante. Il y a plein de qualités qui leur ont permis de remporter le in-season, évidemment. Je pense qu'ils étaient aussi mieux organisés que les Pacers. On voit qu'ils sont plus sérieux que les Pacers, qui sont excellents en saison régulière pour jouer des matchs avec un petit peu d'enjeu où il y a de la préparation et tout ça. Mais pour autant, ça en fait pas des favoris au titre. Loin de là, j'ai envie de dire. C'est une des équipes qui shoote le moins à 3 points. Et c'est une des équipes qui réussit le moins de 3 points comment dire, de la saison. Ils sont pas bons en mi-distance non plus. Le seul endroit où ils sont bons, c'est sur le cercle. Je sais pas si ce modèle offensif est viable. Défensivement, l'équipe, elle est intéressante. Rien que hier, par rapport au moment où on enregistre ce podcast, ils jouaient contre les Spurs et ils ont déployé une défense en zone dans le deuxième quart-temps qui était assez impressionnante, qui a complètement stoppé les Spurs pendant un moment, sans Anthony Davis. Donc, je pense qu'il y a un vrai potentiel défensif, mais offensivement, il y a une vraie limite. Dans le dernier podcast, on parlait de Zach LaVine et du potentiel ajout de ce genre-là à l'effectif des Lakers. Je pense que ça pourrait leur faire du bien parce que offensivement, actuellement, ils sont trop limités. Ils sont trop dépendants de LeBron James. Ils sont trop dépendants de l'apport au scoring d'Austin Reaves. En fait, ils sont trop dépendants d'une multitude de facteurs qui restent relativement incertains. Et moi, ce que j'ai vu dans ce in-season, c'est pas une équipe championne. C'est une équipe championne du In-Season Tournament. C'est deux choses qui sont extrêmement différentes pour moi. Je pense que le résultat de cette finale, c'est pas du tout quelque chose sur lequel on doit se baser pour dire les Lakers sont contenders, les Lakers valent quelque chose. Les Lakers sont les Lakers. C'était pas particulièrement intéressant comme contenu et je pense que ils sont pas dans la course au titre, tout simplement.
Et puis, Luka, il faut quand même rappeler quelque chose. Les Lakers sont contenders, les Lakers sont contenders. Ils sont quand même 8e à l'Ouest, faut quand même le rappeler. L'Ouest est
Derrière les
une.
Rockets.
Derrière. Attendez, précisons-le. Derrière les Rockets d'Alperen Sengun, Jalen Green et Dylan Brooks. Voilà, c'est dit. Comme ça, on est bon. Tarizon, il met LeBron James dans sa poche arrière. Voilà. Je termine là-dessus. Donc, 8e à l'Ouest, les Lakers. Et en tirant. Alors, Anthony Davis est exceptionnel. Défensivement, je le trouve à un niveau. Vous savez qu'Anthony Davis était un défenseur élite candidat DPOY tous les ans. Honnêtement, cette saison, je l'ai rarement vu à un tel niveau défensif. Pas de bol pour lui, Rudy Gobert défend encore mieux. C'est pas grave, ça arrive à des gens très bien. Luka, moi, ce qui m'interpelle dans cet effectif, c'est que, en fait, la personne qui fait encore la pluie et le beau temps, bah, c'est LeBron James, qui va avoir 39 ans le 27 décembre de mémoire.
30 décembre.
30 décembre? Est-ce
C'est
qu'on
ça,
peut
hein, je crois.
vérifier cette information, messieurs, s'il vous plaît? Parce que j'aimerais pas que nos auditeurs se trompent sur la date d'anniversaire du GOAT.
30 décembre 1984, voilà,
Avec mes
rassurez-vous.
excuses, Benjamin, avec mes excuses. Donc, il va avoir 39 ans le 30 décembre. Tu feras quoi le 30 décembre, d'ailleurs, Benjamin?
Moi, je serai tout seul dans ma chambre en train de travailler sur du basket.
Il sera en pré-cuite, voilà. Il se préparera pour le 31 en
Bon.
sirotant une bouteille de Jack. Je suis dans le
Je
chaud ou...
sais pas où va ce podcast, mais tu sais très bien que je serai en train de travailler
LeBron
et de
James,
regarder du
30,
basket.
39 ans, on lui tire dessus très clairement. Enfin, le mec joue 38 minutes par match, c'est un enfer sur Terre. Est-ce que LeBron James peut tenir à cette cadence? J'ai
Joue
l'impression que ça
34
fait
minutes,
8
hein,
ans.
juste pour préciser.
Comment?
Il joue 34 minutes pour de vrai, juste pour préciser. Je sais que c'était. Mais les gens pourraient le croire, tu vois.
LeBron James, Luka.
Bah, le problème, c'est que là, LeBron James n'est plus un joueur héliocentrique comme par le passé. Dans le sens où avant, c'était vraiment le système, il pouvait porter des plombiers en finale. Enfin, Cleveland 2018, c'est vraiment l'exemple type, sauf qu'aujourd'hui, LeBron ne peut plus le faire. C'est toujours, par contre, un excellent joueur, c'est un des 15 meilleurs joueurs de la Ligue très facilement. Et je suis méchant même quand je le dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il a besoin néanmoins d'être mieux accompagné. Tu parlais tout à l'heure d'Anthony Davis, excellent défensivement. Ça, je suis d'accord. Par contre, j'ai quelques problèmes offensivement où il est plus capable de mettre un jumper. Enfin, c'est vrai que son shoot, il l'a plus du tout. Même son petit fadeaway qu'il avait il y a quelques années, on ne voit plus du tout faire. Et ça, je trouve que c'est un problème pour ces Lakers parce que ben, ça renforce en fait ce côté manque de spacing, etc. Donc là, LeBron, ce qu'il a besoin, c'est qu'il a besoin de création. Il ne peut plus assumer la création pour lui tout seul. Et ben, c'est clairement un des problèmes de Los Angeles de cette année. D'autant plus que, ok, on a Austin Reaves qui peut faire de la création, mais qui n'est pas non plus un joueur élite. C'est un très bon joueur, mais pas un joueur élite. D'Angelo Russell, c'est à peu près pareil, mais c'est de la création personnelle. En fait, c'est ce qui manque là aujourd'hui à ces Lakers, c'est vraiment de quelqu'un qui va accompagner LeBron, parce que LeBron ne peut va continuer à faire des stats de mammouth. Enfin, c'est un des trois meilleurs joueurs d'histoire, deux meilleurs joueurs d'histoire, mais
On peut faire
il faut
attention à ce
pas.
qu'on dit là-dessus, s'il vous plaît, les gars. S'il
Non
vous
mais
plaît,
je...
je veux juste qu'on fasse très attention à ce qu'on dit.
Non mais c'est bon, je pense qu'il a dit les termes. En plus, s'il prend large, il a moins de chances de se tromper.
Mais donc du coup, c'est vraiment là nécessaire les Lakers doivent se renforcer. Et ce qui est intéressant en fait chez les Lakers, c'est qu'il y a quand même pas mal d'assets ou de bons contrats à trader pour aller récupérer ce joueur qui va faire la différence.
Petit point stat sur LeBron James. Voilà, je vous sors une stat, vous en faites ce que vous voulez. LeBron
Rien,
James est le
en
seul
gros.
joueur de l'histoire à avoir été à la fois le plus jeune joueur de la ligue et le plus vieux. Et LeBron James a joué contre les 32 derniers first pick de draft. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Benjamin, ton avis sur LeBron James, sans transition.
Alors, c'est plus le plus vieux joueur de la ligue, si je ne dis pas de bêtises, que maintenant Taj Gibson était re-signé, donc
C'est pas faux. C'est pas
voilà,
faux. C'est
attention.
pas faux. C'est pas faux. Très
Non
bien.
mais par
Tu vois,
contre,
quand tu veux, tu peux nous être utile.
il a été le plus jeune et le plus vieux, c'est vrai, et c'est toujours aussi phénoménal en fait qu'il soit capable de maintenir ce niveau à son âge. Maintenant, moi, ce côté storytelling autour de LeBron James, je l'aime bien. C'est intéressant de voir ce qu'il peut faire à son âge. Par contre, la question pour les Lakers, c'est pas qu'est-ce que LeBron peut faire à 39 ans, c'est qu'est-ce que LeBron peut faire tout court. Et comme dit Luka, c'est vrai qu'il a plus cette capacité à porter une équipe, il peut le faire par séquence. Encore une fois, je me base sur le match d'hier contre les Spurs. Dans le deuxième quart-temps, il pète un câble, il fait 9 passes décisives dans le deuxième quart-temps seulement.
C'est un délire.
Moi, quand il se passe ça sous mes yeux, je me dis, bon, d'accord, ok, peut-être que j'ai un peu sous-estimé le mec. Mais par contre.
On parle de LeBron James, hein, avec le
Non,
mot
mais.
sous-estimé dans la même phrase. Excusez-moi, mais là, il y a quand même quelque chose qui me dérange. Qu'est-ce qui t'arrive, Moubèche, là?
Mais quand le mec fait 9 passes décisives dans le deuxième quart-temps, c'est vrai que moi, j'hallucine. Et le fait que ce soit toujours capable de faire ça à son âge, c'est énorme. Et ce que dit Lucas, je pense, est très juste. Et je pense qu'ils ont vraiment besoin d'un renfort, même si le retour des blessés, je pense à Jared Vanderbilt qui a raté beaucoup de matchs cette saison et qui la revient, Gabe Vincent qui est toujours blessé et qui pourrait quand même faire du bien à cette équipe, notamment sur le plan de la création, même si c'est pas un créateur élite lui non plus. Ces retours-là, ils peuvent vraiment faire du bien. Mais je pense qu'il y a un vrai besoin chez les Lakers de se renforcer à la trade deadline, que ce soit avec Zach LaVine, que ce soit avec un autre profil, peu importe. L'enjeu, c'est vraiment d'apporter plus de shoot, d'apporter plus de traction extérieure, plus de création et d'avoir plus de variance dans le jeu parce qu'aujourd'hui, je trouve que les Lakers sont trop prévisibles offensivement. Ils sont excellents défensivement, ils sont très flexibles. Je pense qu'ils sont capables de jouer le titre avec cette défense, mais juste, ils n'ont pas
Vraiment.
l'attaque qui correspond.
Et
Mais
d'ailleurs,
je.
LeBron est, moi, est capable encore de quelques prouesses défensives sur séquence. Évidemment, il ne va pas défendre
Bien
à 100%
sûr.
sur tout un match, mais sur certaines séquences, on oublie trop souvent que LeBron James a été l'un des tout meilleurs défenseurs de la Ligue à son poste
Oui, bon,
dans ses belles années.
c'était en 2010, quoi.
Ouais, mais voilà. Mais voilà. Et puis après, bon, LeBron a toujours défendu plus ou moins par séquence, mais quand il s'y met, il est toujours très très bon. Bon, en tout cas, si les Lakers ont besoin d'un intérieur inintéressant au possible à Houston, on a Jock Landale, et il n'y a aucun problème pour leur envoyer. Vraiment aucun problème. Luka,
C'est vraiment.
D'Angelo Russell, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais rien, c'est bon, vas-y,
Bon,
je te laisse.
Landale, ça va, lui commence à m'énerver aussi. Hein, voilà, je suis aigri, c'est bon, j'ai parlé de Landale, je suis aigri. On a parlé de rumeurs de transfert, les amis. Et l'un des joueurs des Lakers qui ressort le plus dans tout ça, c'est D'Angelo Russell, qui serait plutôt dans les petits papiers des Lakers pour un départ. Mon Luca, dis-nous un petit peu ce que tu penses, trade ou pas trade de Russell, est-ce que ce serait une bonne idée pour les Lakers?
Le trade me paraît évident, mais en fait, il me paraît évident depuis cet été. Enfin, la prolongation qu'il a eue, c'est clairement un petit contrat de 38 millions sur 2 ans, donc 19 l'année, donc c'est un contrat qui est facilement tradable.
C'est un très bon contrat pour un trade.
Ouais, ça, c'est excellent. En plus, c'est sur du court terme, donc c'est parfait pour l'équipe qui va le recevoir. Et en fait, c'est un joueur qui, là, aujourd'hui, a du mal à s'entrer dans le collectif des Lakers parce que Austin Reeves a à peu près le même profil que lui. Il y a quand même des différences, hein, mais c'est quand même des profils assez semblables et donc que tu ne peux pas mettre ensemble sur le parquet. Et c'est problématique. D'Angelo Russell, il ne faut pas non plus oublier les playoffs qu'il a complètement manqué l'année dernière, mais également par le passé avec Minnesota. Donc, en fait, c'est un joueur qui pose question du côté de Los Angeles et puis même en défense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai beaucoup de mal avec D'Angelo Russell.
Putain, je suis un bon défenseur. Hein.
Il va y avoir une bonne action et deux mauvaises actions, donc c'est le gros problème avec lui. Et c'est vraiment ce côté, bah, là, du côté de Los Angeles, il ne remplit pas ce dont ont besoin les Lakers pour aller au titre. Et ils sont vraiment, les Lakers, ils sont à un mot près de devenir un contender plus que sérieux à l'Ouest et en NBA, mais avec D'Angelo, là, je pense que c'est compliqué et vraiment il y a des opportunités sur le marché qui vont s'ouvrir là, à partir du 15 janvier qui peuvent faire la différence pour le titre final.
Moi j'ai plutôt aucun doute sur le fait que les Lakers trouvent un point de chute pour D'Lo au regard de son contrat. Il faut quand même dire que ça reste un joueur quand même très intéressant. C'est juste, Benjamin, je sais pas ce que t'en penses, le profil, c'est pas le bon fit pour les Lakers en fait.
Bah, y a ce problème déjà d'être un joueur négatif défensivement dans une équipe à l'identité défensive. Au-delà de ça, il y a le problème qu'évoquait Luca plus tôt du manque de création. C'est un joueur qui crée pour lui-même, il peut créer son tir, il peut créer ses espaces, mais par contre, pour créer pour les autres, c'est pas un meneur de jeu gestionnaire.
C'est un combo guard,
Non, c'est même complètement ça. À Minnesota, depuis que Mike Conley est là, le jeu est beaucoup mieux organisé et ça a tout changé. Donc les Lakers, ce qu'il leur faudrait, c'est Mike Conley. Le problème, c'est que ils ont récupéré D'Angelo Russell dans le transfert, quoi. Et après, je dis McConney au hasard, mais ce qu'il leur faudrait, c'est plus un gestionnaire quand là, ils ont récupéré un scoreur, mais qui n'est pas un scoreur très efficace à 3 points.
En tout cas, à Houston, on n'a plus Ty Washington à leur envoyer, donc ça ne sert à rien de parler avec nous pour un meneur de jeu. Voilà.
Mais c'est trop grave ce que tu fais, Hugo, à toujours te ramener aux Rockets. Je pense que je vais quitter ce podcast ici. Et pour être plus sérieux, en vrai, il y a un problème de recrutement de manière générale. Cette re-signature-là de D'Angelo Russell, le contrat avait du sens et le fit, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, dans l'absolu, on pouvait essayer. Mais pareil, Christian Wood, il s'est perdu dans la rotation. Il a un rôle inintéressant. Défensivement parlant, on savait que ça allait être catastrophique. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Donc en fait, il y a tout ce problème-là. Il y a ces rotations qui ne fonctionnent pas. Austin Reeves qui joue en sortie de banc. Je pense que c'est pas le meilleur rôle pour lui, ouais. Mais c'est un petit peu ce qu'ils sont obligés de mettre en place parce que vu leur ressort actuel, c'est le plus pertinent. En fait, il faut changer des choses. C'est impératif. Mais dans l'absolu, j'ai du mal à imaginer là, les Lakers qui commencent à avoir des blessures, qui commencent à avoir des absences chez les joueurs majeurs, chez les remplaçants, qui pourraient effectuer un transfert à la deadline, gagner un titre après ça. Où est la stabilité? Où est le projet offensif? J'ai du mal à le voir. Donc moi, ce que je vois chez ces Lakers, c'est des limites que je pense qu'ils ne pourront pas dépasser cette saison. Donc Lakers contender, à moins d'une grande surprise, moi, j'y crois pas du tout. Et je pense que tous les points qu'on a évoqués précédemment dans ce podcast, en fait, les empêchent concrètement, d'être de vrais prétendants face à des équipes comme les Bucks, les Celtics, ils sont beaucoup plus sérieux.
Quand tu parles de tous les points évoqués précédemment dans ce podcast, est-ce que tu fais référence au passage sur Jock Landale?
J'étais sûr que tu allais dire ça, Hugo. Et voilà. Sache que Jock Landale est un joueur que j'affectionne beaucoup.
On soit sûr et sur la même longueur d'onde. Bon, en tout cas, les amis, très rapidement, dernière question. On va faire des petits pronos. Luca, où est-ce que tu vois les Lakers à la fin de la saison? La saison régulière s'arrête demain. À quelle place ils sont?
Bah, la place où ils sont classés maintenant, c'est quoi cette question débile?
Oh, qu'est-ce qui m'énerve celui-là?
Non, mais c'est vrai, si elles sont regardées à ça demain, il se passe quoi?
Mais c'est Antonio, mais qu'ils ne reviennent jamais!
Ils vont pas jouer 60 matchs en une journée, tu vois ce que je veux dire?
D'accord, Benjamin.
Non, mais c'est vrai ou pas?
D'ailleurs. Je sais pas si tu t'en es rendu compte.
Mais je souligne, parce que tu le mets dans la sauce pour rien.
Non, je dirais, honnêtement, là, je vais pas vraiment penser, mais je dirais aller vers la 6e place au mieux. En fait, c'est peut-être juste dernier qualifié directement en playoff.
Mais... Ça veut dire que les Rockets vont monter. Je suis désolé, je m'excuse, je suis très très en forme. Benjamin, moi, j'ai surtout... place pour Luca.
J'ai surtout du mal à croire que ces podcasts vont être diffusés, sachant qu'ils sont complètement différents de ce qu'on a fait avant. Moi, les Lakers, je les vois bien finir là où ils sont maintenant, c'est-à-dire 8e place, 9e place, dans le play-in, un peu comme la saison dernière. Notamment s'il y a un transfert, je pense qu'il y aura besoin d'une période d'ajustement. Et du coup, ça va être compliqué de vraiment en fait maintenir un rythme, de monter dans le classement quand d'autres équipes jouent la carte de la stabilité, quand d'autres équipes construisent des projets plus cohérents. Donc moi, je les vois bien rester à cette 8e place, descendre un petit peu et se qualifier en play-off par le play-in tournament. Ça leur ressemble bien.
Et bah, l'optimisme légendaire de Père Moubèche, voilà, on en a une nouvelle preuve.
En même temps, on les a descendus pendant tout le podcast. Pourquoi je serais optimiste?
On n'a pas fait que les descendre. Attends. J'ai dit que LeBron James, c'était un bon joueur.
Moi, j'ai dit qu'il défendait bien, mais bon.
C'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais attention, les Lakers, c'est pas catastrophique non plus. Ils sont 8e, ils sont en 15-11. C'est pas une catastrophe. Avec un bilan comme ça, en 5 matchs, t'es 4e. Hein, y a aucun problème.
C'est le même bilan que les Pelicans, quoi. Les Pelicans, avec Zion Williamson hors de forme et tous les problèmes structurels qu'il y a là-bas. C'est du McCollum qui manque des matchs.
Tu as des infos.
Non, mais c'est vrai, c'est pas un peu triste, ça?
Factuel. Ouais, c'est factuel. On vous fera un petit épisode sur les Pelicans, parce que c'est très intéressant ce qui se passe actuellement à la Nouvelle-Orléans. Messieurs, je crois qu'on a fait le tour. On a encore fait un bon carton, là.
Ouais.
Un bon carton.
Un carton américain.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, les gars. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, un petit commentaire sur YouTube. Abonnez-vous, mettez la cloche, je suis influenceur. Nous, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous.
Un max de pouces rouges.